Donc nous entendons le témoignage de Serge Haroche, professeur honoraire au Collège de France et administrateur honoraire du Collège.
Pierre, ma tâche est difficile. D'abord parce que je suis ému d'avoir à parler de Jacques devant des gens qui l'ont connu, qui l'ont bien connu, qui ont apprécié son œuvre dans toutes ses facettes. Et aussi parce que je dois parler, après tout ce qui a déjà été dit au sujet de Jacques, sur les différents aspects de sa personnalité, sur son travail en tant que chercheur, en tant que professeur, que mentor, architecte, administrateur, et également en tant que citoyen engagé. Donc je vais dire quelques mots, et je ne vais pas me tenir à mon texte, sur Jacques comme collègue et comme ami. Je l'ai connu lorsque j'ai fait ma visite rituelle que tous les candidats au Collège de France font à l'ensemble des professeurs. Pierre-Gilles De Gennes, qui avait présenté ma candidature, m'avait dit « Tu vas voir, l'un des avantages, des privilèges du Collège de France, c'est que les professeurs qui y sont admis font connaissance avec des gens qui travaillent dans des domaines très différents du leur, et qu'on a ainsi un enrichissement extraordinaire parce qu'on est amené à fréquenter dans le monde académique des gens qu'on ne fréquente pas dans les universités françaises. » Et le premier que j'ai rencontré, Jacques Glowinski, a été une illustration parfaite de cela. J'ai été tout de suite mis à l'aise par sa gentillesse, par sa modestie, par sa curiosité aussi, parce qu'il m'a tout de suite posé des questions très précises sur mon travail. Et la glace a été rompue très vite, et je me suis rapidement rendu compte qu'il avait une personnalité exceptionnelle. Et ça a été confirmé par toute l'expérience que j'ai eue en le côtoyant au cours des années suivantes. J'ai été toujours impressionné par les qualités qui ont déjà été évoquées, sa rigueur, la confiance qu'il mettait dans les gens, son enthousiasme. Aussi, le fait qu'il, lorsqu'il avait une idée, lorsqu'il pensait que quelque chose était juste, il le défendait jusqu'au bout avec ténacité, ça a également été dit, et que cela a provoqué parfois des conflits qui pouvaient être véhéments. Lorsque ça a été évoqué à plusieurs reprises par certaines personnes qui ont parlé avant moi, et en les écoutant, je me suis demandé sincèrement, est-ce que j'ai été moi-même l'objet de cette colère, de ce courroux ? Ça a résonné lorsque Michel Zinc a dit « Tu m'énerves ». Effectivement, je me suis souvenu qu'à deux ou trois occasions, il m'avait dit la même chose. Mais il était capable, il faisait tomber la tension immédiatement par un mot d'humour, par un mot d'autodérision souvent, et il arrivait à régler ses conflits, même lorsque ces conflits étaient relativement graves et qu'il prenait une allure institutionnelle. On a beaucoup parlé de Jacques Glowinski, l'architecte. Je dois dire que j'ai été extrêmement impressionné par son travail dans ce domaine. J'avais assisté pendant des années et des années à des cours du Collège de France dans les anciens amphithéâtres qui avaient leur charme malgré leur vétusté. Mais lorsque je suis revenu au Collège, lorsqu'on m'a proposé une chaire, et lorsque je suis revenu au Collège à la fin des années 90, j'ai été vraiment ébloui par l'harmonie de cette architecture. Jacques avait su s'entourer donc de grands architectes, et il avait su allier à l'environnement historique des bâtiments du XVIIIe siècle la modernité. Et je suis sûr que tous ceux qui assistent à aux cours qui sont donnés à l'amphithéâtre Marguerite de Navarre, ou qui déambulent dans les foyers, ou qui visitent ces caves dans lesquelles un petit musée a été installé, contrairement à ce que disait André Miquel, on a quand même trouvé des choses intéressantes dans les fouilles, et ces choses sont exposées, et c'est absolument exceptionnel. Il y a également un petit musée dans la bibliothèque du collège. Tout cela, ça manifeste le respect de l'histoire et des traditions alliées à la modernité, et on le doit grandement à Jacques. Il a été rappelé d'ailleurs que ses travaux avaient pris un temps très long. En fait, ça a duré 20 ou 25 ans. Ces travaux se sont terminés lorsque j'étais administrateur en 2014, mais ils avaient commencé au début des années 90. Et en ce qui concerne leur financement, Jacques m'avait raconté avec son rire communicatif qu'il avait compris quelque chose de ce qu'ils avaient, avec André Miquel et lui, vu pour la première fois Émile Biasini. Ils avaient commencé par proposer un projet assez modeste au niveau de ce que l'on fait dans les universités au niveau académique. Et Jacques s'est rapidement rendu compte qu'Émile Biasini écoutait d'une oreille très distraite, et il a compris qu'il fallait donner au projet une ampleur qui le rendait digne des grands projets mitterrandiens. Et donc ça manifeste que le goût pour l'architecture et le sens artistique n'est pas suffisant. Il faut également un sens politique extrêmement aigu, un sens des relations humaines que Jacques avait, qui lui a permis, avec la ténacité qui a été rappelée, de poursuivre cet effort sur des décennies. Je crois que la deuxième partie des travaux, celle à laquelle j'ai été plus directement associé avec Pierre Corvol et puis ensuite au cours des trois années où j'ai été administrateur, a été plus difficile parce que les locaux qui se trouvent, qui ne sont pas accessibles au public, sont moins visibles et que pour les gouvernants et pour les politiques, ils leur attachent sans doute moins d'importance. Mais pour Jacques, c'était essentiel. Ce projet n'était pas simplement un projet architectural, c'était un projet pour l'esprit, pour la mission du Collège de France, comme ça a été rappelé avant. Jacques pensait que le Collège de France n'avait pas uniquement pour mission d'enseigner la recherche en train de se faire, comme il est dit dans les textes du Collège, mais devait également être un endroit où se faisait sur place la recherche, et une recherche pluridisciplinaire, parce qu'une des vocations du Collège, c'est de mêler la recherche dans différents domaines, aussi bien d'ailleurs dans les sciences exactes que dans les sciences humaines, et que pour cela, il fallait qu'il y ait une pluridisciplinarité au Collège. Il avait su, et ça a été rappelé dans les exposés précédents, s'entourer, créer des laboratoires de biologie, d'abord son laboratoire de neurobiologie qu'il occupait déjà depuis les années 80, et ensuite tout l'essor des différents groupes et des jeunes équipes en biologie, mais il voulait que cela aille au-delà de la biologie. Alors, il se trouve qu'à la fin des années 90, des professeurs au Collège de France en physique et en chimie ont pris leur retraite. Ils ont quitté les locaux qui étaient devenus vétustes et qui étaient inadaptés à une recherche moderne, ce qui fait que lorsque les professeurs ont été nommés dans ma génération, il était naturel de penser qu'ils allaient continuer à faire leurs recherches dans leurs institutions d'origine. Et c'est d'ailleurs l'impression que j'avais lorsque j'ai accepté de prendre une chaire au Collège. Mais au cours de cette visite que je lui ai faite avant d'être nommé, il a abordé le sujet et il m'a dit qu'il comptait bien à ce que je vienne m'installer avec mon équipe de recherche au Collège. Et lorsque je lui ai dit que j'étais à l'École normale, il ne m'a pas dit qu'est-ce que c'est que cette personne. Tu avais dû sans doute lui expliquer ce qu'était l'École normale. Il le savait très bien. Il m'a dit « Mais vous savez, vous n'êtes pas loin. L'École normale, le département de physique, c'est à 300 mètres. Et vous n'allez pas vous priver des chercheurs et des jeunes normaliens qui viendront dans votre laboratoire. » Et il m'a convaincu. J'ai accepté, effectivement, d'y amener mon équipe. Et lorsque, bien des années plus tard, les travaux ont été finalement achevés, en 2014, nous avons été très heureux d'y entrer. Pas seulement moi, il y a eu des laboratoires donc de physique et de chimie qui sont venus s'installer, des équipes de professeurs et des jeunes équipes de chercheurs qui y sont venus, et on bénéficie là de conditions de travail absolument exceptionnelles. Je me souviens d'ailleurs des visites de chantier qu'on faisait au début des années 2010, où Jacques avait le sens du détail qui a été évoqué précédemment. Il me demandait où il fallait placer les prises, à quelle température, à quel niveau de stabilité de température il fallait se placer. Et non seulement on faisait venir les élèves de l'École normale, mais on faisait venir également l'hélium liquide à travers des tuyaux qui passaient dans les systèmes d'égouts de Paris. Enfin, il a prévu absolument tout cela. Et il apprenait en même temps, parce qu'il n'avait jamais... Il ne s'était jamais intéressé avant aux nécessités d'un laboratoire de physique ou de chimie, mais au fur et à mesure, il apprenait et il en tenait compte pour essayer de créer un environnement exceptionnel pour les chercheurs. Il pensait également aux espaces de convivialité, aux salles de réunion, et, chose absolument exceptionnelle, à cette terrasse qui se trouve au dernier étage du bâtiment. Et chaque fois qu'on monte cette terrasse et qu'on voit l'environnement historique dans lequel on a la chance de pouvoir travailler, on a une pensée pour Jacques Glowinski. Mais je voudrais terminer en parlant de l'homme et de l'ami qu'il a été pour moi. Très rapidement, nous sommes devenus amis et cette amitié ont été associées nos épouses, Isabelle et Claudine. Et on s'est rencontrés très souvent à l'occasion des pots qui suivent les leçons inaugurales ou les colloques de rentrée du collège, mais également de façon privée. On a été dans cette merveilleuse maison dans le sud de la France, qui est bâtie autour d'un arbre vénérable et où l'harmonie architecturale est également présente, même si c'est des conditions complètement différentes de celles que l'on trouve à Paris. Et au cours de toutes ces réunions, au cours de toutes ces circonstances, on a échangé surtout, pas seulement sur la science, mais également sur la politique, très souvent, sur les livres que l'on aimait, sur les expositions qu'on avait pu voir. Je me rappelle qu'une fois, Claudine a dit qu'on était sur le point de partir pour passer quelques jours de vacances dans une île au large de Salvador de Bahia, une petite île qu'on avait découverte quelques années auparavant. Et en plaisantant à moitié, on leur a demandé « Mais est-ce que vous voulez venir avec nous ?» On devait partir 3 ou 4 jours plus tard. Et Jacques, avec son sourire et en riant, a dit « Mais pourquoi pas ?» Isabelle s'est dit qu'elle était d'accord également. Et ils se sont joints à nous. Et on n'avait jamais réussi ça avant. À plusieurs reprises, on avait fait ce même genre de proposition à d'autres personnes qui, raisonnablement, nous avaient expliqué que ce n'était pas possible de le faire aussi vite, etc. Donc on s'est retrouvés... Donc une semaine plus tard, sous les tropiques, sous les cocotiers et au bord de la plage. Et là, on a passé 10 jours extraordinaires où on a parlé à nouveau de tout, de nos enfants et petits-enfants, des choses qu'on aimait, de la politique, bien sûr, qui était quelque chose à laquelle Jacques s'intéressait beaucoup. Et il nous a parlé des épisodes qu'on a évoqués plus tôt, de son enfance... De la période de la guerre où il a dû se cacher, comme il a été dit, de ses parents, de l'école républicaine qui a été pour lui un ascenseur social, on en a parlé également, de ses débuts au Collège de France, dans un institut Marais et avec chez Albert Fessard. Il manifestait comme ça une espèce de continuité. En fait, Marais, c'était la fin du XIXe siècle. Il remontait dans l'histoire du Collège de France. Il se sentait parti de cette histoire. Ensuite, évidemment, il nous a parlé de son séjour aux États-Unis, du stage qu'il avait fait avec chez Julius Axelrod, qui l'avait beaucoup marqué professionnellement. Il était aux États-Unis à l'époque de la guerre du Vietnam et de la lutte pour les droits civiques. Et ils nous racontaient en riant comment ils avaient visité les États-Unis dans une petite Renault qu'on a vue, je crois, dans le premier film. En fait, c'était l'époque où Renault essayait de s'implanter aux États-Unis. Ça n'a pas été une grande réussite. Mais il a pu, donc, ils ont circulé en Renault aux États-Unis. En fait, ceci me donne l'occasion de terminer en parlant de 3 personnes pour lesquelles Jacques avait... une grande reconnaissance, une grande admiration, une grande affection. La première, c'était Pierre Dreyfus, qui était un oncle d'Isabelle, et c'est la connexion avec Renault, puisque Pierre Dreyfus a été donc le PDG de la régie Renault pendant des années. Et Pierre Dreyfus était une personnalité qui s'intéressait beaucoup aux humanités, à l'archéologie, qui a joué un grand rôle pour orienter Jacques Glowinski vers ses études universitaires et qui a financé ses études. Il avait pour lui une grande affection. La deuxième personne, c'était Julius Axelrod, qui, comme on l'a dit, signalé avant, a eu, en 1970, a eu un prix Nobel de physiologie et de médecine et qu'il considérait comme vraiment son mentor sur le plan scientifique. Et la troisième personnalité dont il parlait, c'était Monsieur Laporte. En fait, je dis Monsieur Laporte parce que c'est comme ça que Jacques Glowinski l'appelait toujours. Et je pense que c'était émouvant et très touchant de voir que Jacques Glowinski, au fait de sa carrière, qu'il avait atteint les plus hauts niveaux académiques possibles, administrateur du Collège de France, parlait toujours de Monsieur Laporte avec un sentiment de déférence et de reconnaissance. Et par là, il se plaçait dans une lignée à nouveau. Il se voyait comme un chaînon dans la chaîne des connaissances. Et c'était remarquable. Je dois dire que c'est une question également de personnalité, parce que je pense qu'aucun des membres de son groupe, de ceux qu'on a entendus tout à l'heure, ne disait « Monsieur Glowinski ». En fait, on l'appelait Jacques ou Glo. Moi, je ne l'ai jamais appelé Glo personnellement, mais ce n'était pas du tout du même style que Monsieur Laporte. Voilà, la dernière fois que nous l'avons vraiment vu en personne, c'était il y a 2 ans, juste avant le confinement. Nous avons été dîner dans un restaurant du quartier avec Isabelle et le dîner a été très agréable comme d'habitude, très stimulant. On a parlé de beaucoup de choses, on a parlé des nuages qui s'amoncelaient à l'horizon, en particulier la crise climatique qui est dans l'actualité aujourd'hui, également de politique. Et il nous avait rappelé en riant que quelques mois auparavant, ils avaient été en métro, assister à un grand meeting politique, je vous laisse deviner lequel, et ils ont été pris dans une foule enthousiaste de jeunes qui transportaient des pancartes et des posters. Et il nous a dit qu'ils étaient sans doute les personnes les plus âgées de toute l'Assemblée, mais pas les moins enthousiastes. Voilà, on n'avait pas pensé du tout à l'épidémie, à la pandémie, qu'il a emporté un an plus tard. Après ça, les seuls contacts que j'ai eus avec lui, c'était par courriel. Et il nous a parlé avec enthousiasme des projets qui avaient été initiés par la crise, cette crise pandémique. Il parlait donc des projets dont vous allez parler dans la table ronde qui suit sur le collège Covid et sur également l'importance qu'il y avait à associer toute l'Europe, les lumières de l'Europe, pour résoudre et pour répondre aux défis qui se posent à la société actuellement. Je veux dire que le fait qu'il ait, jusqu'au dernier moment, été capable de suivre ses passions, de faire ce qu'il aimait vraiment, aussi bien en architecture que dans les domaines que je viens d'évoquer, et que finalement il ait travaillé jusqu'au bout et qu'il ait été emporté en quelque sorte par surprise, ça doit être une consolation, un réconfort pour tous ceux qui l'ont connu, pour ses amis et pour sa famille. Je voudrais terminer sur ce point.
Merci Serge. Tu as parfaitement introduit la table ronde. Effectivement, c'était la dernière manifestation ici même de Jacques. Et donc, je vais demander à Anne Fagot, Largeau et les membres de la table ronde qui sont présents, c'est-à-dire Marc Fontcave, Philippe Kouriski, puisque nous aurons une intervention, mais vidéo, de Philippe Sansonetti, qui est à Shanghai. Et Philippe Payon, malheureusement, a dû prendre un train un peu plus tôt aujourd'hui.